Chapitre 2. Le septième jour de la création. Le sabbat. Il est peu de sujets sur lesquels il y ait eu autant de divergences et de controverses que celui du sabbat. Cependant, la doctrine du sabbat est exposée dans l'Écriture de la manière la plus simple et la plus claire pour qui veut se soumettre à l'enseignement de Dieu. Nous examinerons plus tard le commandement formel de garder le sabbat. Ici, il n'est pas question d'un commandement donné à l'homme, mais nous trouvons la simple déclaration que Dieu se reposa au septième jour. Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée, et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il fit. Et il se reposa au septième jour. Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. Versets 1 à 3. Nous apprenons que Dieu se reposa parce que, quant à ce qui concernait la création, son œuvre était achevée. Celui qui avait travaillé pendant 6 jours cessa de travailler et se reposa. Tout était complet et très bon. Toutes choses étaient telles que Dieu lui-même les avait faites, et il se reposait dans son œuvre. Les étoiles du matin chantaient ensemble, et tous les fils de Dieu éclataient de joie. Job 38, verset 7. Dieu célébrait un sabbat. C'est le seul qu'il ait jamais célébré, si nous nous en tenons simplement à ce que dit l'Écriture. Jamais nulle part nous ne retrouvons plus les mots « Dieu se reposa ». Au contraire, Jésus dit « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille ». Jean 5, verset 17. Le sabbat, dans le sens propre et exact de l'expression, n'a pu être célébré que là où il n'y avait réellement plus rien à faire, au milieu d'une création pure, exempte de toute souillure de péché. Dieu ne peut trouver de repos là où le péché existe, et il est absolument impossible qu'il se repose et prenne plaisir dans la création maintenant. Les épines et les ronces, avec les 1000 autres tristes fruits d'une création qui soupire, disent hautement qu'il faut que Dieu travaille et non pas qu'il se repose. Dieu pourrait-il se reposer au milieu des soupirs et des larmes ? De la maladie et de la mort, de la dégradation et des crimes d'un monde coupable et en ruine. L'œuvre de la création a été gâtée, et le repos du septième jour a été interrompu. Depuis la chute, Dieu a travaillé. Assurément, Christ n'a point eu de sabbat pendant qu'il était sur la terre. Il a accompli son œuvre, et l'a glorieusement accomplie. Et où passa-t-il le jour du sabbat? Dans la tombe. Oui, lecteur, Christ, le Seigneur, Dieu manifesté en chair, le Seigneur du sabbat, passa le septième jour dans les ténèbres et le silence du tombeau. Ce fait ne renferme-t-il pas un profond enseignement? Le Fils de Dieu aurait-il été couché dans le sépulcre le jour du sabbat si ce jour avait dû être passé dans le repos et la paix, et dans la pleine conscience qu'il ne restait absolument plus rien à faire? La tombe de Jésus, à elle seule, nous dit l'impossibilité de célébrer un sabbat, et cette tombe, occupée, le septième jour, par le Seigneur du sabbat, nous montre l'homme comme une créature déchue, coupable et sans ressources. Il a terminé sa longue carrière de péché en crucifiant le Seigneur de gloire et en plaçant à l'ouverture de sa tombe une grande pierre, afin de l'y retenir si possible. Et pendant que le Fils de Dieu était dans le tombeau, l'homme a célébré le jour du sabbat. Alors que Christ était dans la tombe pour rétablir le sabbat interrompu, l'homme essayait de garder le sabbat, comme si tout était en ordre. C'était son sabbat, et non celui de Dieu. Un sabbat sans Christ et sans Dieu, une forme vide, sans puissance et sans valeur. Le premier jour de la semaine. Mais, dit-on parfois, le septième jour est devenu le premier, et les principes sont restés les mêmes. Je crois que cette opinion ne repose sur aucun fondement dans l'Écriture. La distinction entre le septième et le premier jour est, au contraire, maintenue de la manière la plus formelle dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous lisons au chapitre 28 de l'Évangile selon Matthieu « Or, sur le tard, le jour du sabbat, au crépuscule du premier jour de la semaine, verset 1. Le premier jour de la semaine n'est donc pas le sabbat transporté du septième à un autre jour, mais un jour entièrement nouveau. C'est le premier jour d'une période nouvelle, non le dernier jour d'une vieille période. Le septième jour est en relation avec la terre et le repos terrestre. Le premier jour de la semaine, au contraire, avec le ciel et le repos céleste. La différence est immense, aussi bien quant au principe lui-même qu'au point de vue pratique. Si je célèbre le septième jour, je me désigne moi-même, par cet acte, comme un homme terrestre, parce que ce jour est le repos de la terre, le repos de la création. Mais si je comprends la signification du premier jour de la semaine, je saisis le rapport direct qu'il y a entre ce jour et le nouvel ordre de choses, tout céleste, dont la mort et la résurrection de Christ constituent le fondement. Le septième jour était en rapport avec Israël et la terre. Le premier jour de la semaine est en rapport avec l'Église et le ciel. De plus, remarquez-le, Dieu avait commandé à Israël de garder le jour du sabbat, tandis que le premier jour de la semaine est donné aux chrétiens comme un privilège dont ils sont appelés à jouir. Le sabbat était la pierre de touche de l'état moral d'Israël, et le premier jour de la semaine est la preuve de notre acceptation éternelle. Le sabbat manifestait ce qu'Israël pouvait faire pour Dieu. Le premier jour de la semaine fait connaître parfaitement ce que Dieu a fait pour nous. Le jour du Seigneur. On ne saurait estimer trop haut le jour du Seigneur, ou la journée dominicale, comme est appelé le premier jour de la semaine au chapitre 1er de l'Apocalypse. Ce jour étant le jour auquel Christ ressuscita d'entre les morts, publie non l'achèvement de la création, mais le triomphe glorieux et complet de la rédemption. La célébration du premier jour de la semaine n'est pas un esclavage ou un joug pour le chrétien. Bien au contraire, c'est son bonheur. C'est le premier jour de la semaine que nous voyons les premiers chrétiens assemblés pour rompre le pain. Acte 1, verset 7. Et la distinction entre le sabbat et le premier jour de la semaine est pleinement maintenue à cette époque de l'histoire de l'Église. Les Juifs célébraient le sabbat dans leur synagogue pour lire la loi et les prophètes. Et les chrétiens célébraient le premier jour de la semaine en s'assemblant pour rompre le pain. Il n'y a pas un seul passage dans toute l'Écriture où le premier jour de la semaine soit appelé le sabbat, tandis qu'il existe des preuves abondantes de la différence essentielle qu'il y a entre ces deux jours. Pourquoi donc combattre pour ce qui n'a aucun fondement dans l'Écriture? Aimez, honorez, célébrez le jour du Seigneur. Laissez vos affaires temporelles autant qu'il est en votre pouvoir. Donnez à ce jour le nom et la place qui lui appartiennent. Et surtout, ne liez pas le chrétien, comme par un joug, à l'observation du septième jour, puisque c'est pour lui un heureux privilège que de célébrer le premier. Ne faites pas descendre le chrétien du ciel, où il trouve le repos, sur la terre, où il n'en peut pas trouver. N'exigez pas de lui qu'il garde un jour que son maître a passé dans la tombe, au lieu de se réjouir dans le jour bienheureux où il l'a quitté. Lisez encore Jean 20, versets 1, 19 et 26. Acte 20, verset 7, 1 Corinthiens 16, verset 2, Apocalypse 1, verset 10, Acte 13, verset 14, Acte 17, verset 2, Colossiens 2, verset 16. Un repos futur. Il ne faut pas croire toutefois que nous perdions de vue le fait important que le sabbat sera de nouveau célébré dans la terre d'Israël et dans toute la création. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Hébreux 4, verset 9. Quand le fils d'Abraham, fils de David et fils de l'homme, prendra sa place en gouvernement sur toute la terre, il y aura un glorieux sabbat, un repos que le péché n'interrompra jamais plus. Mais maintenant, le fils est rejeté, et tous ceux qui le connaissent et qui l'aiment sont appelés à prendre place avec lui dans sa réjection, à sortir vers lui hors du camp, portant son opprobre. Hébreux 13, verset 13. Il n'y aurait pas d'opprobre si la terre pouvait célébrer un sabbat. Et le fait même que l'Église professante cherche à faire du premier jour de la semaine un sabbat met à découvert l'état dans lequel elle est tombée et le principe de sa position. Ce n'est qu'un effort pour retourner à un état de choses et à un code de morale terrestre. Il est possible qu'un grand nombre de personnes ne comprennent pas cela et que beaucoup de chrétiens observent très consciencieusement le jour du sabbat comme tel. Mais si nous sommes tenus de respecter la conscience de ces chrétiens, il est de notre devoir de leur demander sur quels fondements scripturaires reposent leurs convictions. Le fleuve divin. Il y a une liaison entre le sabbat et le fleuve qui sortait d'Éden. C'est la première fois qu'il est fait mention du ruisseau de Dieu dans l'Écriture, psaume 65, verset 9. Et ce sujet est introduit ici en connexion avec le repos de Dieu. Quand Dieu se reposait dans ses œuvres, l'univers entier en recevait de la bénédiction. Mais hélas, les rivières qui coulent d'Éden, la scène du repos terrestre, seront bientôt arrêtées dans leur cours, le péché étant venu tout gâter. Toutefois, et que Dieu en soit béni, le péché n'a pas arrêté Dieu dans son œuvre. Il n'a fait que lui ouvrir un champ nouveau d'action, et partout où Dieu agit, là aussi on voit couler le fleuve. Ainsi, quand il conduit, à main forte et à bras étendus, les armées qu'il a rachetées, les faisant passer à travers les sables arides du désert, nous y voyons couler un fleuve. Il ne sort pas d'Éden, mais du rocher entrouvert, belle image du principe en vertu duquel la grâce souveraine agit en faveur des pécheurs et pourvoit leurs besoins. Il ne s'agit pas ici de création, mais de rédemption. Le rocher était le Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Christ frappé pour la guérison de son peuple. En avançant dans l'histoire des voies de Dieu, nous retrouvons le fleuve dans un autre canal. En la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Jean 7, versets 37 et 38. En Jésus, Dieu est connu dans une relation nouvelle et sur un principe nouveau. En esprit, le Seigneur Jésus est en dehors de tout l'ordre de choses existantes. Il se présente comme la source du fleuve de l'eau de la vie, et le croyant doit devenir le canal de ce fleuve. Éden, autrefois, devait répandre ses eaux au dehors pour arroser et fertiliser la terre. Dans le désert, pareillement, dès que le rocher est frappé, il est appelé à donner des eaux rafraîchissantes au peuple d'Israël altéré. Il en est de même maintenant. Quiconque croit en Jésus est appelé à laisser couler les fleuves bienfaisants dont il est le canal, en faveur de tous ceux qui l'entourent. Le chrétien doit se considérer comme le canal de la riche grâce de Christ en faveur d'un monde pauvre et misérable. Plus il sèmera libéralement, plus aussi il moissonnera libéralement. 2 Corinthiens 9, verset 6. Il est ainsi placé dans une position où il jouit des privilèges les plus doux et où, en même temps, il est sous la responsabilité la plus solennelle. Il est appelé à être un témoin constant de la grâce de Christ et à manifester à chaque instant de sa vie cette grâce. Mieux il comprendra ses privilèges, mieux aussi il s'acquittera de sa responsabilité. Plus il se nourrira de Christ, plus son cœur sera occupé de la personne adorable du Sauveur, plus alors sa vie rendra un témoignage vrai et non équivoque à la grâce qui lui a été révélée et qu'il goûte. La foi est la puissance du service, du témoignage et du culte. Si nous ne vivons pas, comme Paul le dit, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, Galates 2, verset 20, nous ne serons ni des serviteurs utiles, ni des témoins fidèles, ni de vrais adorateurs. Nous pourrons agir beaucoup, mais sans servir Christ. Parler beaucoup, mais sans rendre témoignage à Christ. Prononcer de belles paroles, mais sans rendre cependant un culte spirituel et vrai. Enfin, nous trouvons encore le fleuve de Dieu dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Et il me montra un fleuve d'eau vive éclatant comme du cristal sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22, verset 1. Les fils de Corée, déjà, en ont parlé. Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-Haut. Psaume 46, verset 4. Voir aussi Ézéchiel 47, verset 1 à 12 et Zacharie 14, verset 8. Rien ne peut plus en altérer la source ou en interrompre le cours. Le trône de Dieu est l'image de la stabilité éternelle, et la présence de l'agneau indique que ce trône repose sur le fondement d'une rédemption accomplie. Ce n'est pas ici le trône du Dieu créateur, ni celui du Dieu qui gouverne dans sa providence, mais le trône du Dieu rédempteur. Le trône de Dieu, comme tel, me remplirait d'effroi. Mais quand Dieu se révèle dans la personne de l'agneau, mon cœur est attiré et ma conscience tranquillisée, le sang de l'agneau purifie la conscience de tout péché, il la met dans une liberté parfaite en la présence d'une sainteté parfaite qui ne peut tolérer le péché. À la croix, toutes les exigences de la sainteté divine ont été parfaitement satisfaites, en sorte que, mieux nous comprenons cette sainteté, mieux aussi nous estimerons l'œuvre de la croix. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ. Romains 5, verset 21. Mort et vie. Considérons maintenant brièvement la position d'Adam en Éden. Nous avons déjà parlé de lui comme un type de Christ. Or, nous devons l'envisager aussi comme personne, comme placé dans une position de responsabilité personnelle. Dieu avait établi un témoignage en Éden, au milieu de cette belle scène de la création, un témoignage qui était en même temps une épreuve pour la créature. Il parlait de mort au milieu de la vie, car Dieu avait dit « Au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. » Verset 17. Parole étrange et solennelle et pourtant nécessaire. La vie d'Adam dépendait de son obéissance. Le lien qui l'unissait à l'éternel Dieu était l'obéissance fondée sur la confiance en la vérité et en l'amour de celui qu'il avait placé dans la position élevée qu'il occupait. Le chapitre 3 nous fera voir d'une manière plus développée la portée et la vérité de ce fait. Mais je désire attirer ici l'attention du lecteur sur le contraste qui existe entre le témoignage établi en Éden et le témoignage de la dispensation actuelle. En Éden, alors que tout était vie, Dieu parle de mort. Maintenant que tout est mort, Dieu parle de vie. Il fut dit « Au jour que tu en mangeras, tu mourras, certainement. » Maintenant, au contraire, il est dit « Crois et tu vivras. » En Éden, l'ennemi chercha à annuler le témoignage de Dieu quant au résultat qui devait suivre la désobéissance. De même maintenant, Satan cherche à annuler le témoignage de Dieu quant au résultat de la foi à l'Évangile. L'Écriture annonce clairement que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 3, verset 36. Et ce même serpent cherche à persuader les hommes qu'ils n'ont pas la vie avant d'avoir senti, fait, expérimenté toute espèce de chose. Je vous en supplie, cher lecteur, écoutez la parole du Seigneur et non les insinuations du serpent. Celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24.